le mystère le plus secret, qui est le secret même de Dieu, qui est le mystère de la très sainte Trinité. Je crois qu'il faut bien comprendre cela. Les premiers chrétiens saisissaient bien ce passage. Et au Moyen-Âge, on le soulignait aussi avec beaucoup de force. Peut-être qu'on le souligne moins maintenant, et c'est pourtant important pour nous de saisir ce que représente le mystère de Dieu considéré en lui-même, c'est-à-dire dans sa simplicité, Dieu est l'être premier, la source de tout. Notre intelligence peut dire quelque chose de Dieu. Difficilement, vous l'avez vu, je suis sûr, quand on parle de Dieu en lui-même et qu'on essaie de voir comment on monte progressivement jusqu'à l'affirmation « Dieu existe », ce n'est pas si commode. C'est vrai, c'est un effort de l'intelligence ultime. Et une fois qu'on découvre la réalité d'une personne antérieure à tout, donc éternelle, on peut parler aussi du mystère de la création. Quel est le lien qui existe entre nous et cet être premier ? L'intelligence humaine peut parler de cela. Des philosophes qui n'ont pas reçu la révélation en ont parlé. Les grands philosophes, Platon et Aristote, les stoïciens, le néoplatonisme, ont parlé de Dieu. Il faut attendre notre monde d'aujourd'hui pour voir à l'intérieur de la philosophie, qui est la recherche de la vérité, cette réflexion de l'idéologie athée depuis 150 ans. Il y a toujours eu des athées, mais ce qu'il y a de particulier depuis 150 ans, c'est de voir que, à l'intérieur d'une réflexion qui se veut philosophique, vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qui se veut exhaustive, totale. Le philosophe veut parler à l'homme de l'homme, pour montrer à l'homme sa destinée propre, ce pourquoi il est fait. C'est le rôle de la sagesse. Et philosophe veut dire ami de la sagesse, ceux qui cherchent la sagesse. La philosophie, c'est regarder l'homme dans sa destinée propre, ce pourquoi il est fait. Il faut attendre ces 150 années pour qu'on voit à l'intérieur de la philosophie s'élever toutes ces idéologies athées. C'est cette grande forme d'idéologie athée. De fait. Et le fruit de ces idéologies athées, c'est de créer un climat de laïcité. C'est-à-dire, l'homme peut seul sauver l'homme. On attend tout de l'homme, puisqu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien avant, il n'y a rien après, il n'y a que l'homme. Il ne faut pas oublier que nous vivons après cela. Alors, on voit bien que ces idéologies athées demeurent. C'est trop facile de dire le communisme peut-être sous sa forme politique s'arrête, mais l'idéologie athée de Marx, de Lénine, demeure. Faut pas dire que c'est fini. L'idéologie athée du positivisme demeure. L'idéologie athée d'un Freud demeure. L'idéologie athée d'un Nietzsche demeure. En face de ces idéologies athées, nous devons essayer de sauver notre intelligence. Et j'allais dire sauver l'homme. Sauver l'homme, comprenez bien, pas du tout en étant le sauveur, le rédempteur. Sauver l'homme pour rappeler sa dignité, sa grandeur. Rappeler la grandeur de l'intelligence et ne pas confondre intelligence et raison et logique. C'est tout à fait autre chose. L'intelligence, elle est faite pour connaître l'homme dans ce qu'il a de plus profond, dans ses secrets, dans son cœur et dans le fond de son esprit. Et de montrer que l'homme est un être spirituel, un être capable de s'élever au-delà du monde matériel et de découvrir autre chose. C'est pour ça que le gros problème d'aujourd'hui, c'est de découvrir à travers toutes les traditions religieuses qui sont toujours sous un mode symbolique et quelquefois mythique. Découvrir qu'il y a quelque chose de vrai. Que ces symbolismes cachent une réalité profonde. Que ce n'est pas seulement des mythes imaginatifs, à la manière dont parle Feuerbach, en disant ce sont des nostalgies de l'homme. L'homme est malheureux ici sur la terre, alors il invente un au-delà. On voit très bien ce que ça veut dire. Quand vous êtes malheureux, votre imagination travaille. C'est demain, peut-être qu'il y aura le bonheur. Demain, il y aura peut-être quelque chose d'extraordinaire. Je rencontrerai quelqu'un de merveilleux qui sera la grande lumière de toute ma vie. Vous voyez, ça reste une nostalgie. Alors, est-ce que Dieu est une nostalgie? C'est le gros problème d'aujourd'hui. C'est pour ça que le problème de l'existence de Dieu reste pour nous un problème capital, très difficile. Mais il faut montrer aux athées que c'est pas si commode que ça d'être athée. Je vous donne ce petit exemple parce que je l'ai vécu, c'était à Fribourg, où j'avais comme problème philosophique de voir ce que le philosophe dit sur Dieu, ce que l'homme a dit sur Dieu. Et je ne savais pas que dans mon auditoire, j'avais des étudiantes allemandes, athées, appartenant à un groupe très très fortement athée. Elles étaient venues à Fribourg, comme ça, pour voir un peu ce que pouvait être une philosophie qui parlait de Dieu. Elles m'ont dit ça à la fin, elles m'ont dit ça au début. Elles m'ont dit ça au moment des examens, vous voyez. C'est l'avantage des examens, c'est quelquefois, ça fait une ouverture du cœur. Parce qu'on a peur d'une mauvaise note. Alors à ce moment-là, on devient tout doux. Et alors ça vient très bien. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Pendant 3 ans, elles n'ont rien dit. Comme à Fribourg, tous les cours impliquaient un examen. Le problème de Dieu, au plan philosophique, implique un examen. Alors elles sont venues, à 3, en même temps. Quand on voit 3 en même temps, c'est une trinité. C'est quelque chose d'assez particulier. Il doit y avoir une peur qu'on n'ose pas dire si on est seul. Je ne dis pas que c'est idiot comme ça, mais il y a un petit quelque chose comme ça, vous allez voir. C'est peut-être la première approche de la très sainte Trinité. carrément dit, nous appartenons à un groupe athée. On a suivi votre cours. On n'a pas tout compris. Je dis, c'est pas étonnant. Alors, l'examen. Est-ce qu'on est obligé de croire en Dieu? Je dis, mais non, c'est un examen philosophique. Je vais sonder votre intelligence pour voir si vous êtes intelligente. Parce que si vous êtes resté limité avec des a priori, c'est pas la peine de faire des philosophies. Il faut supprimer tous les a priori. Tous les a priori affectifs du milieu dans lequel on est. Pour essayer de comprendre la vérité. Alors elle me regardait. Elle dit, mais alors comment l'examen? Je vous verrai si vous êtes intelligente. Et comment? Au programme, il y a eu divers philosophes, ceux qui ont essayé de montrer comment l'intelligence était orientée vers Dieu, et puis ceux qui l'ont nié. Alors, vous devez comprendre un peu ça. Alors, elles ont commencé un tout petit peu à me dire, vous nous poserez plutôt le problème de l'athéisme, si vous voulez. Et j'aurais dit tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Alors, elle me regardait encore avec insistance. Oui, je dis, c'est beaucoup plus difficile, parce que l'athée nie quelque chose qu'il ne sait pas. Alors, est-ce que c'est intelligent? Et alors, en effet, quand je les ai interrogés, j'ai essayé de leur faire comprendre que l'athée nie quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il y avait un nom que les traditions religieuses transmettent. Le nom Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le nom Dieu pour un athée? Alors j'aurais montré qu'il y avait derrière ce mot une signification qui n'était pas du tout Dieu. Elle l'a reconnu. C'était intelligente, donc j'aurais donné une note juste et bonne. Et puis au moment de la licence, elle pouvait choisir la matière. Il y avait trois matières qu'on choisissait. Puis dans la licence, elles choisissent le problème de Dieu. Elles étaient toutes fières du reste. De dire, on a choisi ça. Parce que c'est le cours qui nous intéressait le plus. Tant mieux. Ils ont passé leur licence. Très bien. Puis après avoir l'examen, ils ont dit, maintenant, est-ce que nous pouvons vous parler? Non plus en tant que professeur, mais en tant qu'homme. Alors, je dis très volontiers, je ne demande pas mieux. Et là, elles m'ont dit ceci. Nous allons retourner en Allemagne. Nous allons retrouver notre groupe. Qu'elles retrouvaient du reste régulièrement pendant les vacances. On va leur dire que c'est beaucoup plus difficile qu'ils ne pensent d'être athées. En réalité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Alors elles ont ajouté, ce n'est pas à cause de ça que nous croyons que Dieu existe. Mais nous voyons qu'il y a un problème. Et que ce problème est central pour la vie de l'homme. C'est bien évident que je vis différemment si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Si je peux dire qu'il y a un lien souterrain entre ce qu'il y a de plus profond en moi et Dieu, ou s'il n'y a rien, il n'y a que l'homme. C'est pas tout à fait la même chose. Au point de vue de ma responsabilité. Arrête moi exposer ça avec beaucoup de force. Ça m'a beaucoup intéressé, du reste. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, surtout si on est croyant, mais même si on n'est pas croyant, on doit se poser la question, quelle est la finalité de l'homme? Et au point de vue de la finalité de l'homme, vous comprenez très bien que l'existence de Dieu, c'est capital. Le Concile Vatican II nous dit qu'il faut l'ouverture au monde, c'est-à-dire nous inquiéter des athées. Nous inquiéter de ce monde de laïcité. Est-ce qu'on a le droit de vivre dans la laïcité? ou est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est capital. Est-ce que c'est normal de vivre dans la laïcité? De dire le problème religieux, niet, ça ne m'intéresse pas. Je le rejette. Ou en faisant ça, est-ce qu'on mutile l'homme? Couper à l'homme un bras, c'est criminel. Rendre un homme borgne, c'est criminel. Volontairement. À froid. Empêcher l'homme de découvrir l'existence d'un être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu, c'est criminel. Parce qu'on ampute l'intelligence. Je crois que c'est ça le problème fondamental. On est au point de vue théologique. Et au point de vue réflexion humaine. Vous voyez, c'est là où la théologie et la réflexion humaine se rejoignent. Et qu'on voit que la théologie a une répercussion sur toute notre vie. Et ça, c'est fondamental. Parce que la foi ennoblit notre intelligence et ne détruit pas notre intelligence. La foi nous rend normalement, comprenez bien ce que je veux dire, la foi normalement augmente notre appétit de vérité. On a un désir d'aller plus loin et de découvrir quelque chose de plus que l'immédiat. C'est pour ça que ce problème-là est fondamental. Qu'est-ce que l'homme peut dire sur les traditions religieuses qui parlent du Dieu et du Dieu créateur? Maintenant, nous allons entrer dans le secret de Dieu. Le mystère de la fécondité en Dieu. La fécondité est toujours un mystère. C'est la fleur de la vie. C'est quelque chose de toujours secret. C'est pour ça que c'est enveloppé toujours d'un certain mystère, même au plan purement philosophique. C'est extraordinaire de voir ça, du point de vue de la création. Comme tout le mystère de la fécondité est comme enveloppé par la toute-puissance de Dieu. Et il y a quelque chose, la vie est capable d'être féconde. Le grand, grand mystère d'aujourd'hui, pour les biologistes, pour le philosophe, et pour le chrétien. Bien, Dieu, si je me place dans les traditions judéo-chrétiennes, donc notre tradition, la tradition de l'Europe, il faut parler de l'Europe. Notre tradition de l'Europe. Notre tradition de l'Europe, c'est une tradition judéo-chrétienne. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est comme ça. C'est un fait. Et dans cette tradition judéo-chrétienne, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. La rencontre d'une pensée, d'un art, assez extraordinaire. La Grèce et l'Empire romain. Quand en Judée, Jésus était là et commençait sa vie apostolique, à Rome, Jérusalem et Rome, à Rome, il y avait une philosophie stoïcienne, Épictète, l'esclave devenu philosophe. L'esclave devenu philosophe. C'est quand même quelque chose, vous voyez, aujourd'hui, l'esclave devenu philosophe, je crois qu'il serait tout de suite au Collège de France. Tout de suite, c'est évident, l'esclave devenu philosophe. Sorti du milieu d'esclave, il fallait voir ce que c'était, et devenu philosophe. Alors il avait une liberté, parce qu'il savait ce que c'était que d'être enchaîné. Alors il avait une liberté étonnante. En face de tous les sénateurs romains, il montrer qu'ils étaient eux pas libres du tout, parce qu'ils dépendaient des élections. Oui, c'est très actuel. On a une politique en fonction des élections, oui, c'est effrayant. À la place de regarder ce pourquoi, en effet, on regarde l'origine. C'est la politique du berceau. On retourne au berceau. Vous savez, psychanalytiquement, il y a l'angoisse du berceau, le retour au berceau. Eh bien, quand, de fait, un homme politique pense aux élections, c'est la politique du berceau. Il retourne au berceau. D'où il est venu. Il a été choisi. Il a peur. Alors il retourne au berceau. Pour être sûr. Faut comprendre que cette tradition judéo-chrétienne, qui était déjà liée à la Grèce, du reste, faut pas l'oublier. Il y a toute la période hellénistique qui existe dans la tradition juive. Avec le christianisme, il y a eu ce ferment grec, romain, qui est venu, d'où est née la théologie. Alors, comprenons bien, d'abord, Dieu a voulu se choisir un petit peuple à partir d'Abraham. Et Dieu révèle ce qu'il est à Abraham. Un ami. C'est curieux. Hein? La révélation de Dieu se fait tout de suite par une alliance. C'est pas du tout le Dieu terrible. Vous voyez? De beaucoup de traditions religieuses. Le Dieu qui juge. Non, c'est tout de suite une alliance. Je crois que c'est très important, ça. De voir que la foi est née dans une alliance avec Dieu. Une alliance d'amour. Et Dieu révèle en premier lieu qu'il est l'unique. Le seul véritable Dieu. Pendant 2000 ans, cette révélation s'est faite progressivement. C'est très important de regarder ça. À travers les prophètes, à travers Moïse. Dieu est un Dieu unique. C'est le mystère de Dieu unique. Au milieu du polythéisme, au milieu de l'Olympe des dieux, Dieu se sépare de tous les faux dieux, de tous les idoles. Et dans les psaumes, dans les prophètes, vous voyez bien constamment ce rappel du Dieu unique au milieu des idoles. Le peuple d'Israël a un sens très fort du monothéisme. On attend un Messie. On attend un Messie. Un sauveur. Un Messie qui permettra au peuple d'Israël d'être libre, d'être ce qu'il doit être. Et alors, cette attente du Messie s'est précisée avec les prophètes. Cette attente du Messie devient au moment où Jésus va paraître, va devenir très intense. On attend un Messie libérateur du peuple d'Israël. Un Messie qui va remettre le peuple d'Israël dans toute sa gloire. Il ne faut pas l'oublier, ça. Le peuple d'Israël a une nostalgie de la gloire. On le voit avec l'institution de la royauté. Avec le prophète Samuel. Une nostalgie de la gloire. Et le désir d'avoir un roi. Pour être comme les autres peuples. Oui, la démangeaison d'être comme les autres peuples. C'est très significatif, ça. C'est un peuple qui a été mis à l'écart. Mais on a peur d'être mis à l'écart. On a très peur de ça. De ne plus être comme tout le monde. D'avoir un langage qui n'est plus celui de tout le monde et de ne pas être accepté par les autres. Alors on a peur. Quand la foi n'est plus assez forte, parce que la foi nous fait nous accrocher à Dieu, quand la foi n'est plus assez forte, on retombe sur les traditions religieuses. Je crois que la confusion de la foi et des traditions religieuses, c'est la chose la plus terrible pour la foi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, constamment. Combien de chrétiens confondent foi et tradition religieuse. Foi et tradition religieuse et familiale, et politique quelquefois même. Alors c'est un blocage effrayant. Parce que les traditions religieuses, il y a une part de l'homme, quelque chose aussi qui peut venir de Dieu, mais tout est mélangé. Tandis que la foi vient directement de Dieu. Vous voyez, c'est l'horizontal et le vertical. Si vous voulez avoir une petite image. La tradition religieuse sont horizontales. C'est l'homme. C'est l'homme religieux. Tandis que la foi, c'est un don de Dieu. Directement. Et gratuite. Jésus apparaît comme non seulement le Messie, mais il se déclare fils de Dieu. Cette déclaration a été déjà faite à Marie, à l'Annonciation. Mais Marie a compris que c'était un secret de Dieu et qu'elle devait le garder comme un secret. Et elle l'a gardé comme un secret, même par rapport à Joseph. Ce qui a posé un petit problème, et même un gros problème, à Saint-Joseph. À Marie, on ne le dit pas, elle gardait le secret. C'était le secret de Dieu qui était transmis. Dieu qui révélait qu'il avait un fils. Vous voyez, il faut comprendre, dans une tradition religieuse, politique, où la foi est immergée dans cette tradition religieuse et politique du monothéisme. Cette révélation que Jésus n'est pas seulement un envoyé, un prophète, même un super prophète, mais qu'il est fils de Dieu. C'est une brèche dans toute la tradition religieuse. C'est un poulet de canon, si vous voulez. Quelque chose qui est invraisemblable. Et que le témoin de cela, ce soit Marie, une mère, la femme. C'est pour ça qu'il y a, dans une tradition religieuse persane, le mazdéisme, cette critique à l'égard du christianisme, cette religion qui repose sur le témoignage d'une femme. J'aime beaucoup ça. C'est vrai. Marie est seule au moment d'Annonciation. Et elle garde un secret. Oui, il ne faut pas oublier ça, que notre foi chrétienne est une foi qui nous fait entrer dans un secret. Les premiers chrétiens avaient très fort ce sens-là. Nous l'avons beaucoup moins, parce que nous sommes une ère journalistique des médias. Alors il n'y a plus de secret. Il faut tout dire. Marie a gardé ce secret. Et Jésus le dit à des disciples, à un petit groupe, un tout petit groupe. Et parmi les disciples, sans doute, les trois qui comprendront mieux, Pierre, Jacques et Jean, qui reçoivent ce message. Et quand Jésus, durant sa vie apostolique, essaie de montrer ce qu'il est. Le Père et moi, Nous sommes un. On prend des pierres à ce moment-là pour le lapider. Un homme qui dit qu'il est Dieu. C'est le plus grand des blasphèmes. Alors, n'oublions pas que tout le mystère de la très sainte Trinité, de la fécondité en Dieu, c'est Jésus qui nous fait entrer dans ce mystère. Dans la tradition juive, ce mystère est annoncé d'une manière très énigmatique. Très énigmatique. Vous voyez, cette annonciation faite à Abraham des trois qui sont un. Cette magnifique icône que nous aimons beaucoup. Et c'est une icône, c'est une révélation symbolique. Les trois qui sont un. Vous comprenez bien que la très sainte Trinité, c'est pas trois jeunes gens qui sont un, juxtaposés les uns à côté des autres. C'est pas ça du tout. Et c'est une révélation très énigmatique, lointaine. Et Jésus affirme, le Père et moi, nous sommes un. Il le dit. Et ça lui a coûté cher. La révélation de la très sainte Trinité a coûté la vie à Jésus. C'est quand même très grand, ça. Jésus, pour rendre témoignage à la vérité et nous faire entrer dans le mystère de la très sainte Trinité, a accepté la mort. Pour montrer que ce qu'il disait était la vérité. Et son témoignage, c'est l'acceptation même de sa mort. Dans l'Antiquité, il y a eu quelque chose de très lointain par rapport à ça, mais d'analogue. Socrate. Et qui a servi comme modèle pendant des siècles et des siècles. Surtout dans le stoïcisme. Socrate a accepté de prendre la ciguë, donc de mourir, pour être fidèle à sa voix intérieure. Et sa voix intérieure, pour lui, c'était la voix de Dieu qu'il conduisait. Une révélation tout intérieure. Et il a accepté la mort pour montrer que pour lui, croire, être fidèle, à cette voie intérieure, était plus important que sa vie temporelle. Et ça, c'est grand. Jeanne d'Arc a accepté de mourir pour être fidèle à sa voie intérieure. Le père Maximilien Kolb a accepté de mourir pour être fidèle à sa voie intérieure. La charité. Ce que l'Évangile nous demande, d'aimer son frère d'une manière telle qu'on est prêt à mourir. Voyez comme c'est important pour nous de comprendre que le mystère de la très sainte Trinité, c'est-à-dire le lien de Jésus avec son Père, nous est révélé à travers la croix. Il a accepté de mourir parce que ce qu'il disait était la vérité, qu'il était vraiment Dieu. Et le mystère de la résurrection a confirmé son témoignage, que son témoignage était bien le témoignage d'un homme Dieu, pas seulement le témoignage d'un homme. Socrate n'a pas ressuscité. Jeanne d'Arc n'a pas ressuscité. Le père Kolb n'a pas ressuscité. Et il le savait, Jeanne d'Arc le savait. Socrate ne demandait pas la résurrection. Il savait qu'il était simplement un envoyé. Un envoyé pour éduquer les jeunes. Pour leur rappeler la vérité. peux mourir pour rendre témoignage à la vérité. Qu'il s'agisse d'une vérité humaine, qu'il s'agisse d'une vérité divine. Et Jésus est mort pour donner témoignage à son message qu'il était vraiment fils de Dieu, qu'il ne faisait qu'un avec Dieu, et que la promesse qu'il faisait d'envoyer l'Esprit Saint était une promesse véritable, on dirait aujourd'hui authentique. Tout son grand message sur l'Esprit Saint, le Paraclet, est quelque chose de vrai. Donc il faut bien comprendre, en commençant de regarder ce mystère de la très sainte Trinité, que c'est Jésus, le Messie, qui ne vient pas seulement sauver d'une façon temporelle son peuple, mais qui vient l'introduire dans le mystère le plus intime de Dieu pour faire de ceux qui croient en lui des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Là, on dépasse toute philosophie et on entre dans le secret du mystère de la foi. La foi, c'est une connaissance divine qui nous introduit dans le secret de Dieu. La foi est connaturelle au secret de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est né dans le mystère de la croix. Et on est introduit dans le mystère intime de Dieu, le mystère de la filiation, le mystère de l'Esprit Saint. Je crois que ça, c'est capital pour nous. Quand nous commençons à réfléchir sur le mystère de la très sainte Trinité, remontons toujours à la source. Qu'est-ce qui nous a révélé le Père? Le Fils unique. Vous savez bien ce passage dans l'évangile de Saint Jean, qui est le grand évangile de la très sainte Trinité. Ça, c'est bien évident. C'est l'évangile de Jean qui est l'évangile de la très sainte Trinité. Eh bien, Jean nous dit ceci dans son prologue. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a vu. Un Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Et ce Fils unique, c'est le Verbe devenu chair. Voilà la grande affirmation du prologue de Saint Jean. Voyez tout de suite, l'évangile de Jean nous introduit dans le mystère du Fils unique, qui nous fait connaître le Père. La révélation chrétienne, c'est de recevoir de Jésus cette révélation du Père. C'est de recevoir de Jésus cette révélation qu'il est le Fils unique, qu'il est le Verbe devenu chair, et qu'il est venu nous sauver en nous donnant la vérité plénière. Et la vérité plénière, c'est que Dieu a cette fécondité. Il est cette fécondité éternelle du Père à l'égard du Fils, et du Fils et du Père à l'égard de l'Esprit Saint. Voilà la grande révélation chrétienne, dans ce qu'elle a d'essentiel. Et tout, tout vient de là. Alors, je pose tout de suite, en petite note particulière. Parce que c'est bon d'y réfléchir. Quand vous dites ça à quelqu'un qui ne croit pas, il dit, mais c'est très bien, mais Jésus, il est très loin. Je ne suis pas contemporain de lui. Comment pouvez-vous dire ça? L'écrit de Saint Jean, en quelle année? Comment savez-vous tout ça? Oui, l'apologétique, là. Comprenons bien. Il faut changer de clavier. C'est très très important de ne pas confondre la foi et l'apologétique. Très important, comme il ne faut pas confondre la foi et les traditions religieuses. Il ne faut pas confondre la foi et l'apologétique. Notre foi ne repose pas sur l'apologétique, grâce à Dieu. Parce que l'apologétique, ça change, vous savez. Regardez l'apologétique, c'est dommage que je n'ai pas emporté un livre pour vous montrer ça. Ça vous aurait fait plaisir, vous auriez bien ri. L'apologétique du début du siècle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut de temps en temps la lire, parce qu'on se dit, mais quoi. Nos grands-pères ont pu lire ça, c'est affolant. Et ils ont cru à ça. Et on a confondu apologétique et foi. L'apologétique, c'est quoi? C'est de montrer, la grande apologétique, la plus grande, hein, c'est de montrer que tout ce qu'il nous est révélé, dans notre foi chrétienne, n'est pas en contradiction avec notre intelligence humaine. C'est ça la grande apologétique. De montrer que tout ce qui nous est révélé, tout, toute la Bible, n'est pas en contradiction avec notre intelligence humaine. Si nous sommes vraiment croyants, pas des mini-croyants, qui confondent la tradition religieuse et la foi, qui confondent la tradition politique et la foi, ne sont pas vraiment croyants. Ce sont des mini-croyants. Il y en a des quantités qui sont comme ça. La preuve, c'était qu'il y a une autre vague, une nouvelle secte, et ils ne sont pas là-dedans. La grande secte qui est en train de se lancer, doucement là-dedans, sans apercevoir que c'est en contradiction avec leur foi chrétienne. C'est quand même très important, ça. L'apologétique, dans le grand sens du mot, c'est très beau. C'est le lien entre le regard philosophique, humain, sur l'homme, au point de vue apologétique, il y a ce problème, qui est un très gros problème. Ça, c'est évident. C'est extraordinaire de voir comment Dieu s'est caché. Vous voyez, il y a quelque chose de très curieux. Ça aurait été si simple pour Jésus. Ça aurait été si simple pour Jésus. Comme fils de Dieu. Dans sa vie apostolique. Après chaque journée, de résumer ce qu'il avait fait dans la journée, et de demander à Pierre de signer, et demander à Jean de signer, et demander à Jacques de signer, on aurait le récit de la vie du Christ raconté par lui-même avec trois témoins. Ça aurait été merveilleux. Et écrit de la main du Christ. Vous voyez ça, ce trésor. Extraordinaire, merveilleux, étonnant. Quand je suis allé à Québec la première fois, on m'a montré au vieux Québec les écrits de Marie, la Trinité, de Marie, de l'Incarnation. Les écrits par elle-même, ce gros volume énorme, écrit de sa main, merveilleusement, en vieux français. C'est beau à lire. Fine écriture, magnifique. Étonnant, c'est impressionnant. Vous voyez ça, on aurait ce petit livre écrit, et Jésus aurait pu faire ça pour nous, en araméen, en grec et en latin. étonnant. 3 livres. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? C'est quand même important. Vous voyez, aujourd'hui, on a le Coran en face de nous. Lui, il a fait ça. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Jésus n'a rien écrit. Rien du tout. C'est pas par mépris pour l'écriture. Parce qu'alors tous les chrétiens ne devraient rien écrire. On serait la secte de ceux qui n'écrivent pas. Au moins, on aurait une originalité par rapport à notre monde. On aurait dit, l'écriture, l'imprimerie, c'est Satan. Tout ça, c'est dégoûtant. Non. Nous voulons rester purs. Purs, uniquement la parole. Et la transmission de la parole. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Pourquoi Pierre, à la Pentecôte, qui reçoit le Saint-Esprit, d'une façon charismatique, hein? Ah, ça alors, ça a bien commencé, sous des formes de lampes de feu, sous un vent étonnant, et tout ce...
Bien, l'homme est capable de la station inverse, j'allais dire, il est capable de la prostration volontaire, qui est, vous voyez, qui est carrément l'inverse de la station debout. Vous trouvez ça, à ma connaissance, chez aucun animal, si vous regardez ça de façon qualitative par...
Prudent. Très prudent. Prêtre ouvrier, hein. S'il en fut. Hein. Merveilleux, étonnant. Galiléen. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas, ayant reçu l'Esprit Saint, dit aux apôtres, écoutez, nous avons tous reçu l'Esprit Saint, nous sommes tous très unis dans cette lumière. Première chose, une commission pour écrire l'Évangile. Il a raté le coup. Il réécrit l'Évangile le soir de la Pentecôte en demandant aux 11 de sous-signer. On aura un document extraordinaire. Pourquoi Pierre n'a-t-il pas fait ça?
On a raconté.
C'est Simon de théologie.
Par le père Philippe. À Rimont, le 24 février 91.
Mission. Il n'avait pas besoin. Il aurait pu faire tout lui-même. Il a voulu cette coopération jusque dans le mystère de son enseignement. Que son enseignement soit reçu, comme il était lui-même, dans la bonne terre, c'est-à-dire dans le cœur et l'intelligence de l'homme, dans sa foi. Et que cet enseignement puisse produire ses fruits, puisse germer et devenir un grand arbre.
Ensuite, il faut parler peut-être aussi de la peau, parce que la peau est... Alors comme telle, si vous voulez, elle ne présente pas de...
Lorsqu'il s'agit du mystère de Jésus, fils bien-aimé du Père, on est devant un secret familial, intime, personnel, qui jusque-là était demeuré caché. Et qui nous est révélé. Alors évidemment, il y a tout un grand problème historique sur les écrits. Je ne le traite pas, c'est un autre problème. Il faut savoir où le situer. Les évangiles ne sont pas premièrement ce qu'on appelle aujourd'hui des thèses historiques. Ce ne sont pas des thèses. Et trop souvent, on lit les évangiles comme on lirait une thèse d'histoire. C'est pas ça du tout. Les évangiles, c'est le témoignage de disciples du Christ, d'amis du Christ, qui nous donnent donne ce témoignage. Et l'évangile dernier qui termine toute la révélation officielle, c'est l'évangile de Jean, le disciple bien-aimé. C'est donc bien le témoignage d'un ami. Et ceci, c'est capital, témoignage d'un ami. Vous voyez, c'est pas la même chose du tout qu'une thèse d'histoire. Si vous donnez comme thèse d'histoire un témoignage d'amis, vous ferez recaler. Les évangiles se font recaler comme thèse d'histoire. C'est bien évident. C'est pas ça le but. Parce que la foi est au-delà de toute méthode scientifique. Elle dépasse tout cela. Aucune méthode scientifique ne peut mesurer un secret, un lien d'amour, un lien personnel. Et la foi, c'est cette alliance. Alors, c'est très intéressant. Il y aurait un problème extrêmement intéressant, mais ce serait tout à fait différent. Voir comment l'Église, progressivement, a donné la théologie de Thomas d'Aquin sur la très sainte Trinité. Comment les balbutiements du début ont abouti à un traité merveilleux et difficile sur la très sainte Trinité, de théologie dite scientifique chez saint Thomas. Saint Thomas invente la théologie dite scientifique. Scientifique au sens du Moyen-Âge, au sens des philosophes grecs, c'est-à-dire la recherche des causes, la recherche des sources. On remonte à la source. Tout le temps. Mais scientifique d'une manière tout à fait particulière, parce qu'elle repose sur la foi. Et la foi n'est pas scientifique. Mais c'est pour ça qu'on dira scientifique dans le sens d'une science subalternée, c'est-à-dire dépendante de la connaissance des saints, de la vision béatifique. Alors, il y a donc un problème historique, voir comment s'est révélée progressivement la très sainte Trinité. Le premier écrit, l'Épître aux Galates, selon l'histoire, selon le témoignage de l'écrit. Le dernier, quand on n'a pas le temps, il faut toujours regarder le premier et le dernier, vous savez bien. Le premier, l'Épître aux Galates, le dernier, l'Évangile de Jean. Épître aux Galates, vers 49-50, après Jésus-Christ. L'Épître de Jean, l'Évangile de Jean, 95-100. Alors vous voyez, tout le problème d'une critique historique et de l'exégète. Jésus est mort vers l'an 30-33. On a écrit que vers l'an 49. Et c'est même pas un apôtre, c'est un converti. Converti toujours un peu exalté. Toujours un peu, quoi. Un converti. Il a reçu un coup de bambou. C'est vrai, le Saul de Tarse, il a reçu un coup de bambou. Il le fallait. Hein. Aucun raisonnement n'aurait converti Saul de Tarse. Un pharisien qui a toute la culture grecque, merveilleusement intelligent, citoyen romain, en plus de ça. À cette époque-là, c'était quelque chose. Il n'y avait pas beaucoup de juifs qui étaient citoyens romains, vous savez. Et il le dit, quand on veut lui donner un coup de bâton, pas le droit, je suis citoyen romain. Attends, pas de commode. Et vous voyez cette alliance entre Pierre Galiléen, pas un ouvrier, Pierre, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Un artisan, pêcheur sur le lac de Galilée, de génération en génération. Ça faisait des gens merveilleux, calmes, paisibles, et Saul de Tarse, colérique au possible, un grand intellectuel de cette époque-là, intelligent, qui avait puisé toute la culture grecque et romaine, et qui vient pour lutter contre cette secte nouvelle, celle de Jésus, des chrétiens, qu'il faut raser, supprimer. Il part vers Damas, et là, foudroyé, foudroyé. Pourquoi me persécutes-tu ? Ces paroles sont restées gravées dans le cœur de saint Paul jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi me persécutes-tu ? Jésus est vivant. Il est vivant dans l'Église. Pourquoi me persécutes-tu ? C'est extraordinaire ce début de l'Église, cette rencontre de Pierre. Et de son de temps. Vous savez, Dieu fait des jumelages. Hein. Extraordinaire. Pierre et Jean savent encore. Ils se connaissaient. C'était le lac de Galilée, un grand village. Ils se connaissaient bien. C'était la Galilée. Saul de Tarse, il y a des liens. Ils sont tous les deux d'une intériorité prodigieuse. Tandis que Pierre, oh là là, c'est quelqu'un, Pierre. Et tout repose à Dieu. C'est vrai, tout repose à Dieu. Avec Marie, la mère de Jean, la mère de tous les apôtres. Alors ça, c'est tout problème historique. Il est très intéressant, mais il est second. Notre foi ne repose pas sur des données historiques. Ça, c'est extraordinaire. On est positiviste quand on croit que notre foi repose sur des données historiques. Notre foi assume l'histoire. C'est pas la même chose. Notre foi est divine. Elle vient directement du Christ. C'est un don de Dieu. Qui respecte notre liberté. Je crois parce que je veux croire. Et je sais que, en voulant croire, j'adhère à la réalité la plus profonde qui soit, le mystère du Père qui nous a donné son Fils et qui nous donne son Esprit. C'est notre foi, ça. Et notre foi ne repose pas sur des données apologétiques. Elle repose sur l'autorité même de Dieu. C'est ça le croyant. Sur l'autorité même de Dieu. Dans une alliance d'amour. Vous voyez, c'est comme entre amis. Faites une injure à votre ami. Quand il vous dit quelque chose, et vous allez parler par derrière, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'il dit est vrai. En faisant ça, vous trahissez l'amitié. Même au point de vue humain. Tu l'as dit, j'y crois. Parce que je t'aime. Et je sais que tu ne me mens pas. Eh bien, notre foi repose sur une amitié avec le Christ. Ton croyant est ami du Christ. Et Jésus veut qu'on soit des amis de lui et des disciples bien-aimés. C'est ça la grandeur de la foi. Alors maintenant, entrons dans le mystère. Et je prends tout de suite Thomas d'Aquin. Je vais de Jean à Thomas d'Aquin. Parce que ce sont les deux théologiens. Selon la tradition, ce sont les deux grands théologiens. Jean, supérieur, c'est évident. C'est le théologien. Celui qui a beaucoup réfléchi, mais avec un très grand... a le mieux compris, parce qu'il a eu Marie, une mère, qui était la bonne terre. Et Thomas d'Aquin, qui est un théologien remarquable, évidemment très critiqué aujourd'hui. Mais ça m'étonne pas. Au suffrage universel, Thomas d'Aquin ne passerait pas les élections. Ce qui montre que c'est très intelligent, le suffrage universel. Passerait pas. Non, sûrement pas. Je sais pas ce qu'il arriverait. Je sais pas. Quelle moyenne il aurait. Qu'est-ce qui passerait? C'est intéressant de savoir ça, le suffrage universel. Il faudrait lancer ça, vous voyez, un bon laïc lancerait ça, suffrage universel, par rapport à tous les théologiens, tous ceux qui enseignent. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme premier théologien? Très amusant. Un petit test. Bon, je ne suis pas ça, je suis l'Église. Pour l'Église, Thomas d'Aquin demeure le grand théologien. Je dis ça pas parce que je suis dominicain, je dis ça parce que je suis croyant et que j'aime l'Église et que l'enseignement de l'Église m'aide à ne pas dévier. Alors, comment Thomas d'Aquin va-t-il nous donner la théologie de la très sainte Trinité? Le traité de la théologie. Le traité théologique de la très sainte Trinité, dans la Somme. Alors, voyez bien, il faut quand même vous citer ça, parce qu'autrement, vous diriez, on ne nous a jamais parlé. Question, donc, prima pars, on vous a dit, la Somme, première partie, Dieu, la Trinité. Question 33, jusqu'à question, et on va voir tout ça. Non, pardon, question 27 à question 37. Question 27. Prima pars, on écrit ça comme ça. Prima pars, question 27 à 37. Je me trompe. 27 à 43, pardon. La mémoire trompe, vous voyez. Ça fait quand même un petit bloc. Hein. Alors, si on voyait tout ça, il faudrait que vous restiez un mois. Une retraite d'un mois auprès de saint Thomas et auprès de la très sainte Trinité. Vous en sortiriez, je ne sais pas comment. Certains très très heureux, d'autres marchant à quatre pattes. Oh, j'en suis sûr, ça, j'en suis sûr. Parce que c'est... Il faut beaucoup de souffle pour lire saint Thomas. La théologie de Thomas d'Aquin, on vous l'a dit, je le redis, parce que c'est important. La théologie de Thomas d'Aquin, c'est la théologie d'un croyant qui est dans l'Église et qui respecte pleinement et totalement l'enseignement de l'Église. Il veut aller le plus loin possible dans cette affirmation de saint Augustin. Le théologien, c'est celui qui cherche à adhérer avec le plus d'intelligence possible au mystère de la foi. Fides, coherens, intellectum. Je traduis. La foi cherchant l'intelligence. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une avidité chez Thomas d'Aquin, une avidité d'une intelligence qui veut comprendre. On raconte que le petit Thomas d'Aquin, tout gosse, tout gosse, vient frapper à la porte d'un couvent. Il dit, qu'est-ce que c'est que Dieu ? Tout jeune, comme aujourd'hui on voit des gosses qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que Dieu ? Et dans la Somme, ils se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce mystère de la fécondité de Dieu ? Comment comprendre cela ? Donc, c'est la foi qui demande à l'intelligence humaine d'aller le plus loin possible dans son intelligence pour aider le croyant à contempler, à comprendre que ce que Dieu nous dit est plus intelligent que ce que tous les philosophes les plus intelligents peuvent dire. Que la foi nous fait disciples de la très sainte Trinité. On est disciples d'une haute école. Disciples de la très sainte Trinité. Et pour être disciple de la très sainte Trinité, on met toute son intelligence au service de la foi. Alors, comment on fait ça ? C'est que la foi m'est transmise par une parole. Et Dieu a voulu prendre le langage des hommes. L'évangile parle un langage qui est le langage de tous. On cherche dans l'écriture ce qui permettra de pénétrer le plus loin possible dans la signification, dans l'intelligence des affirmations de Dieu. Comme la foi m'est transmise à travers un langage humain, je peux découvrir dans ce langage certaines analogies. Analogia. Le mot analogie provient des sciences mathématiques. Ça veut dire proportion. Certaines proportions, certaines comparaisons qui pourront m'aider à m'élever jusqu'au mystère de la révélation. Vous allez tout de suite comprendre, parce qu'on va voir tout de suite ça. Pas n'importe quelle comparaison. Quand il est dit dans l'Écriture que Dieu est un roc, vous comprenez bien que je ne vais pas prendre le roc en disant « alors Dieu est une montagne, un roc sur lequel je m'appuie ». Non, c'est une métaphore. Et le théologien sera distingué par son intelligence. C'est pour ça que le théologien doit être philosophe. La philosophie aiguisant notre intelligence. Vous savez, les vieux couteaux, hein ? Et donnez un bon bifteck à couper avec votre couteau, vous n'y arrivez pas. Vous aiguisez votre couteau, vous le coupez tout de suite. La philosophie aiguise notre intelligence. C'est le but de la philosophie. Aiguiser notre intelligence. Parce que si on ne fait pas de philosophie, nous sommes des vieux couteaux. On a une intelligence qui confond tout, un amalgame de tout. Notre culture est un amalgame de tout. Alors on aiguise son intelligence pour qu'elle arrive à discerner dans la parole de Dieu ce qui est métaphorique, des comparaisons métaphoriques. Tu es un lion. Jésus, c'est le lion de Juda. Alors vous cherchez à travers tous les lions, le lion de Juda. C'est métaphorique comme expression. Tandis que quand on dit que Dieu est amour, ah, voilà, c'est pas métaphorique. Et pourquoi c'est pas métaphorique ? Parce que la signification de l'amour n'implique en elle-même aucune limite, aucune imperfection. Donc, elle peut être attribuée à Dieu de façon propre. C'est le premier discernement que fait le théologien, ça, à travers l'Écriture. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas l'Écriture, voyez, d'une façon univoque, uniforme. Alors que dans l'Écriture, tout est égal, c'est révélation de Dieu. C'est ça qu'on appelle le fondamentalisme. Le fondamentalisme, c'est de considérer que toute parole de Dieu doit être prise comme un absolu. Ah, pas du tout. Dieu emploie un langage symbolique, poétique. Quand vous êtes en face d'un poète, vous n'allez pas prendre ce qu'il dit matériellement. Vous tuez le poète. Le poète, il a des comparaisons magnifiques, étonnantes, qui vous permettent de décoller un peu. Eh bien, Dieu est un poète pour nous éveiller. Il nous parle un langage poétique, constamment. Les plus grandes poésies sont dans l'Écriture. Le Cantique des Cantiques, c'est une poésie admirable, la plus belle qui a été écrite sur l'amour divin, et par le fait même sur l'amour tout court, et donc l'amour humain. Mais c'est pas le premier, c'est d'abord l'amour divin. Vous voyez, vous devez découvrir dans l'Écriture ce qui est absolu et ce qui est métaphorique. Alors, vous savez que le mystère de la très sainte Trinité nous dépasse complètement. Quand vous êtes en face d'un château fort, je prends une comparaison métaphorique, poétique, au sommet d'une montagne, on voit ça de temps en temps, les vieux châteaux forts au pic, ils sont là pour garder. Tout est fermé, tout est fermé. Vous vous demandez comment on va entrer à vous chercher la petite porte. Il y a une petite lucarne qu'on a oublié de fermer. Alors on va essayer de grimper jusque-là. Et par là, on pourra pénétrer. Et c'est un peu la même chose. Le mystère de la très sainte Trinité me dépasse complètement. Complètement. C'est un secret de Dieu. Alors je cherche la petite lucarne à travers l'Écriture. Et la petite lucarne, saint Thomas l'apprend merveilleusement, tout de suite, dans le début du mystère de la très sainte Trinité. Dans saint Jean, il est écrit « Ego, ex Deo, processi ». Je traduis « Je suis sorti de Dieu ». Je procède de Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Il ne dit pas je suis créé par Dieu. Il dit je suis sorti de Dieu, processi. Je procède de Dieu. Ego genui te. Moi, je t'ai engendré. C'est le Père qui dit ça. De temps en temps, le Père regarde en disant c'est mon fils bien-aimé. C'est mon fils bien-aimé. C'est mon fils en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et puis Jésus dit, je suis sorti de Dieu. Je vais vers le Père. Votre Père est mon Père. Et je suis un avec lui. Alors voyez, le théologien se trouve devant des affirmations qui prises matériellement semble se contredire. Il est à la fois relatif au Père et il est en même temps un avec le Père. Comment puis-je comprendre quelqu'un qui se dit relatif au Père et qui se dit un avec le Père? On ne comprend plus. Petite analogie cependant. Un ami se dit relatif à son ami. Et il se dit un avec son ami. C'est très curieux ça. Alors on lui dit, mais comment ça se fait? Ah, il explique, je suis une autre personne que lui. relatif à lui. Je suis un avec lui dans le secret de son cœur. Alors, est-ce que c'est comme ça? Non, tu ne peux pas dire ça. Si je regarde Dieu, je dis que Dieu est absolument simple. Et saint Thomas l'a affirmé dès le début de sa somme. Son premier regard sur Dieu, c'est que Dieu est absolument simple. Omnino simplex. Dieu, c'est l'être simple, absolument indivisible et indivisé. Il est un. La grande affirmation du monothéisme. Dieu est tout à fait simple. On a affirmé trois choses au début de la somme théologique dans le mystère de Dieu. Vous l'avez vu. Dieu est absolument simple. Je le mets en latin. Omnino simplex. Parce que c'est très beau. Absolument simple. C'est merveilleux. La première contemplation sur Dieu, il est absolument simple. Dieu est très parfait. Perfectissimum. Dieu est souverainement bon. Summum bonum. Je crois qu'il faut bien se rappeler ça. C'est les trois grandes affirmations de Thomas d'Aquin au point de départ de sa théologie. Et là, c'est absolument ça, on ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas toucher à ça. Dieu est absolument simple. Dieu est très parfait. Dieu est souverainement bon. Alors, comment découvrir en Dieu qu'il est trois? Père, Fils, Esprit Saint. Une contradiction terrible. Il est un absolument simple, sans faille. Et puis il est trois. Alors on a la tentation de dire mais c'est absurde. Mais certains l'ont dit. J'adhère, oui, dans la foi, complètement. Comme un gosse qui accepte de marcher les yeux fermés. Et je marche vers quelque chose qui est absurde. Être un et être trois. Dites ça à un gosse. Que un absolument saint, un d'une simplicité absolue, contient trois. Trois personnes. Vous voyez, le théologien Thomas d'Aquin affirme avec autant de force, autant de certitude, que tu es absolument saint, et qu'il est trois. Mais il sait très bien que quand il affirme Dieu est absolument simple, c'est souverainement intelligible. Un philosophe qui va jusqu'au bout des exigences de son intelligence affirme nécessairement que Dieu, qui est l'être premier, est absolument simple. Parce que la simplicité, c'est l'apanage du premier. Celui qui est premier est toujours simple. Celui qui est second n'est jamais simple. Parce qu'il suit. Donc il y a deux mouvements en lui. Il est, et puis il est relatif à l'autre. Tandis que le premier est absolument simple. Tandis que quand il affirme que Dieu implique trois personnes, seul permet de dire ça. Sola fides. La seule foi. Ce n'est que par la foi que je peux dire ça. Il le sait. Alors, il est très attentif à tout ce qui est dit dans l'Écriture et à toute la tradition. Et il voit que Jésus affirme « Je procède je viens de Dieu. Et que le Père dit, je l'ai engendré. C'est pour ça que le théologien va réfléchir sur le mot de l'émanation. Sur le mot procession. Venir de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot émanation, on s'en sert pour la création. Et le mot émanation, on s'en sert pour le mystère de la très sainte Trinité. Vous voyez les équivoques entre les deux? Possible. Mais c'est là qu'on saisit ce que c'est que l'analogie. C'est que la signification d'un terme, d'un mot, si j'y pense bien, si je ne reste pas seulement au mot, mais je pense à la signification du mot, cette signification en elle-même n'implique aucune imperfection. Et donc, elle peut signifier à des niveaux différents des choses très différentes. Qu'est-ce que ça veut dire émaner? L'émanation. Et l'émanation vitale. Une procession vitale. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en présence de ce que représente quelqu'un qui provient d'un autre. Qui procède de lui, qui est comme son fruit. Alors, tout de suite, on comprend que toute émanation implique une opération vitale. Que l'opération vitale peut être ou une opération vitale qui a un fruit extérieur, ou une opération vitale qui demeure dans l'immanence, tout en produisant un fruit intérieur. C'est la grande distinction que fait saint Thomas pour montrer que l'immanation, la procession, peut impliquer une imperfection. Et peut très bien n'impliquer aucune imperfection. Parce que si la source, d'où provient cette émanation, d'où provient cette procession, est purement spirituelle, elle n'impliquera pas nécessairement une division. Et c'est là le point délicat. Et c'est là où on saisit l'intelligence du théologien. Est-ce qu'il va assez loin dans la signification de cette expression qui est dans l'Écriture, la procession? Je suis sorti de Dieu, je procède de Dieu, je viens de Dieu. Venir de quelqu'un, c'est nécessairement être relatif à lui. Puisque je viens de lui. Mais c'est relatif dans un sens où il y a une séparation ou dans un sens où, très bien, il peut très bien se faire qu'il n'y ait pas de séparation. Il y a séparation si je proviens de quelqu'un qui est dans le monde matériel et quantitatif. Alors là, il y a une séparation. Un enfant procède de sa mère. Il y a séparation dans la naissance à cause de l'aspect matériel et quantitatif. Quand l'enfant grandit, ça deviendrait monstrueux. Impossible. Il faut la séparation. Il faut qu'il naisse. Et ça devient tragique s'il ne naît pas. Tandis qu'au contraire, quand je suis en présence d'une opération vitale, spirituelle, j'en ai un petit exemple en moi. Quand je pense, fortement, hein, ce que vous faites maintenant. Quand je pense, je réfléchis et je forme au-dedans de moi-même ce qu'on appelle un concept, ce qui est conçu. Et cette idée que je porte en moi, ce concept que je porte en moi, a une signification. Mais ce concept, il est en moi. Je le porte en moi. Et plus il est parfait, plus il est un avec moi. C'est le fruit de ma pensée. Je vois donc que l'opération vitale peut impliquer un fruit intérieur qui n'exige pas la séparation. Je peux comprendre cela. Si maintenant, par la foi, je regarde Dieu, Dieu est un être spirituel, Dieu est esprit. Donc Dieu contemple ce qu'il est. Déjà le vieil Aristote avait dit que Dieu ne peut être que la pensée de la pensée. La contemplation de la contemplation. Il l'a dit en pur philosophe. Que Dieu nécessairement vit d'une vie contemplative, spirituelle. Et que la contemplation de Dieu ne peut être que la contemplation de lui-même. Il y a cette expression si forte d'Aristote. Quand il parle de Dieu, je l'écris en grec pour bien vous montrer que c'est textuellement ce qu'il dit. Noésis, noéseos. La contemplation, la pensée, noésis. La pensée de la pensée. Dieu ne peut penser en premier lieu qu'à lui. Il est la pensée de la pensée. Et la foi me dit que cette pensée de la pensée a un fruit intérieur, un concept, un verbe. Qui est le fruit intime de sa pensée. Voyez l'analogie. Comment je suis monté jusqu'en haut. Je n'ai pas du tout prouvé qu'en Dieu, il y avait nécessairement un concept et un verbe distinct de sa source. Pas du tout. Parce que si, pour moi, il y a un concept distinct de ma pensée, c'est parce que ma pensée n'est pas parfaite. Ma pensée n'est pas mon être. Et parce que ma pensée n'est pas la réalité à laquelle je pense, quand je pense à vous, vous êtes en dehors de moi, vous êtes séparés de moi. Mais quand je pense à vous, je vous porte en moi. On dira intentionnellement. Je vous porte en moi. Dès que je connais quelqu'un, je le porte en moi. Et cette réalité n'est pas changée. Je le conçois en moi. Je forme en moi un concept dans l'ordre intentionnel. Vous n'êtes pas changé, c'est moi qui suis changé. C'est vous qui me changez. Vous m'apportez votre présence. Et si je suis intelligent, votre présence m'enrichit. Et j'espère que la mienne vous enrichit. C'est réciproque. C'est ça l'apport merveilleux de la rencontre. Une rencontre, c'est ça. Je vous connais alors que je ne vous connaissais pas avant. Je m'enrichis. Je vous porte en moi par la connaissance. Et si on fait mieux connaissance, je vous porterai aussi par l'amour. Et vous deviendriez mon secret. Qu'est-ce que c'est quand vous dites à quelqu'un « Tu es mon ami » ? Ça veut dire « Je te porte en moi comme un secret. » Tu m'apportes quelque chose. Tu m'apportes affectivement quelque chose. C'est de l'ordre intentionnel, c'est évident. Je ne suis pas changé dans mon être. Et je suis pourtant changé dans ma vie. Dans ma vie, il y a quelque chose de plus dans l'ordre intentionnel. Donc, le concept, le verbe que je forme au-dedans de moi-même, quand je connais quelqu'un, c'est pour respecter son autonomie et m'enrichir de ce qu'il m'apporte. C'est parce que en moi, il y a une distinction entre mon être et ma vie que je peux former au-dedans de moi-même un concept de cette réalité nouvelle. Et cette réalité n'est pas changée. C'est parce que je ne suis pas cette réalité que je rencontre, que je forme au-dedans de moi-même ce concept. Si maintenant la foi me dit que en Dieu, dans la pensée de la pensée, il y a cette chose inouïe, une émanation, une procession d'un fruit unique, qui est le Verbe de Dieu. Je peux comprendre que c'est par surabondance, que c'est une nécessité, puisqu'il est éternel, mais c'est une surabondance. La pensée de la pensée